fond, quand même, j'essaie de dire quelque chose. Je ne sais que vous dire, que répondre à vos propos aussi chaleureux, et puis à vos gestes si sympathiques. En préparant ça, d'abord, il m'est revenu quelque chose que disait Blanchot. Blanchot disait « La réponse est le malheur de la question ». Alors je me suis dit « Ben oui, que répondre aux propos chaleureux ? Ben restons-en là ». Puis je me suis dit quand même « Ce ne serait pas très évident » parce que vous avez tenu des propos vraiment très sympathiques et très très, très amicaux. Alors, comment faire ? La fréquentation des sociologues m'a appris, entre autres choses, au moins un aspect important, c'est que quand on était pris dans une situation où on ne savait pas par quel bout la prendre, eh bien on pouvait au moins commencer par la décrire, et puis comme ça, progressivement, la description finissait par amener quelques idées. Eh bien, je crois qu'un des points forts de cette situation, vous vous en doutez, c'est l'émotion. Une émotion qui est faite de ce subtil tremblement intérieur entre l'envie de se faire petit et de disparaître, hein, ce que le sens commun appelle par cette belle expression « Ah, je ne sais pas où me mettre ». Et puis, à l'autre pôle, il y a le désir d'exploser de joie et de tendre les bras. Pascal aurait dit « pleure de joie ». Et je crois que l'ambivalence de l'émotion que j'éprouve tient, me semble-t-il, à cette mise en scène de la séparation. Elle a déjà eu lieu, mais là, on la met en scène. Alors je sais qu'aujourd'hui, on ne parle plus de divorce ou de séparation, on parle de bug. On dit que c'est un bug. Et c'est pas compliqué un bug, hein. Il suffit de redémarrer l'ordinateur. Seulement, voilà, on n'est pas des machines. Les bugs de ce genre, c'est un peu comme les AVC, ça grille des neurones, ça laisse des traces. Alors c'est vrai, j'ai décidé de mettre fin à mon activité professorale pour bien des raisons. Et voilà que cette activité me manque pour bien des raisons aussi. Et la première et la plus essentielle, c'est que nous avons été des compagnons de route de cette formidable aventure universitaire que tu évoquais tout à l'heure. La mise en forme, finalement, de la sociologie à Toulouse, après les pionniers, le doyen Bastide et son certificat de morale et sociologie, puis Raymond Ledru, qui a eu la première chaire de sociologie et qui a contribué à la formation de la génération de sociologues dont je fais partie. Oui, vraiment, des compagnons de route, et non pas de déroute. Ensemble, au fil des ans, on a constitué, tu le rappelais tout à l'heure, cette formidable bibliothèque de sciences sociales. Ensemble, on a mis en place le CED, qui a permis quand même à pas mal d'étudiantes et d'étudiants qui ne pouvaient pas avoir accès à l'université à pouvoir faire des études de sociologie. Ensemble, nous avons mis sur pied des cursus de licence et de master. Et on a bien vu que leur expertise externe n'avait pas posé de problèmes majeurs, bon, toujours des ajustements, mais enfin. Et puis, nous avons construit des laboratoires de recherche dont nous sommes fiers parce qu'ils sont reconnus. Alors, sur ce point particulier, je voudrais dire combien je suis redevable à mes collègues du CERS et du LIST et à mes collègues de l'équipe de sociologie de la santé. On a fait équipe de multiples façons. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire équipe. Mais il y a toujours eu, me semble-t-il, équipe dans la mesure où chacun, chacune, a posé à l'autre des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre immédiatement, mais qui ont stimulé sa recherche et l'ont incité à creuser de nouveaux sillons sur ces terrains. Naturellement, en évoquant ce travail d'équipe, je ne peux pas, et je l'évoquais tout à l'heure avec Daniel, Je ne peux pas ne pas penser à Jean-Michel Berthelot. J'aurais vraiment aimé qu'il soit là aujourd'hui. Plus généralement, si j'ai le sentiment d'avoir contribué à l'œuvre sociologique de notre université, je crois que j'ai davantage le sentiment que c'est vous tous et vous toutes qui m'avez donné la possibilité de participer à cet édifice commun, en m'offrant la place nécessaire au bon endroit, au bon moment. Et cette ouverture, cette main tendue et offerte, ce n'est pas seulement celle de vous tous, mes collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, c'est aussi la main offerte et tendue par nos collègues de l'administration. Nous faisons la fête aussi de Suzanne, nous faisons la fête aussi à Suzanne Roulet aujourd'hui, et je m'y associe pleinement. Je crois que vous représentez, c'est vrai, tout à l'heure Denis le rappelait, les conditions de possibilité de notre propre travail d'enseignant et de chercheur, mais plus encore et mieux, vous lui donnez un visage humain, dévoué, sympathique, chaleureux. Alors j'ai employé la métaphore de la main tendue, mais c'est le plus souvent vos joues qui venaient à notre rencontre pour la bise, et je crois qu'il y a là tout un symbole de votre proximité et de votre confiance. Et voilà donc que vient l'heure de la séparation. Tous les bugs ne sont pas tristes, même s'ils sont énervants. Dans les échanges avec tel ou tel d'entre vous, sur d'autres terres que les terres de la sociologie, j'ai souvent deviné et perçu des fiertés parentales. Elles sont de toutes sortes, et Marcel commence à les expérimenter. Parmi ces fiertés, il y a celle qui est liée à l'enfant qui s'en va ailleurs, mener sa propre vie. C'est un pincement de cœur, mais c'est aussi une fierté. Eh bien, le bug que nous traitons aujourd'hui, je crois qu'il est de cet ordre-là. Certaines personnes qui découvraient mon départ à la retraite ont eu l'amabilité de me dire « Déjà, mais tu ne fais pas ton âge !» Alors, ce genre de propos est toujours flatteur, mais il souligne malgré tout le problème. J'ai un âge qui ne me va pas du tout, mais alors pas du tout. Mais l'âge, c'est comme les parents, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et puis, il y a d'autres personnes qui se sont inquiétées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas t'ennuyer? C'est vrai que l'ennui est une modalité possible de notre rapport à l'action. Mais les sociologues savent bien que les jeunes sont très interactifs, alors que les seniors sont plutôt inter-inactifs. Tout ceci pour vous dire, plutôt que la nuit, il faudrait parler de paresse, c'est-à-dire finalement de notre rapport au temps. Si celui qui s'ennuie souffre évidemment d'inaction, au contraire, celui qui paresse s'applique non pas à ne rien faire, mais plutôt à dilater sa rêverie et sa liberté. Eh bien, il me semble que mes premiers pas dans l'inactivité ne m'ont pas fait glisser du tout dans la nuit. Ils m'ont plutôt incité à m'installer dans la paresse, qui n'est rien d'autre, au fond, qu'un art de la lenteur. Bien sûr, la doxa vous serinera que la paresse est la mère de tous les vices et qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Je crois plutôt que c'est l'agitation et l'urgence qui sont vicieuses et pernicieuses. En ce qui me concerne, en devenant paresseux, j'ai l'impression de devenir intensément et délicieusement occupé. Et puis, cette vie paresseuse me permettra de folâtrer en votre compagnie. Merci à vous tous et vous toutes qui avez bien voulu participer à cette collecte de textes qui me permettra de ne pas vous quitter tout à fait. Quand on l'interrogeait sur sa formidable connaissance des œuvres qu'il jouait, le violoniste Yehudi Menuhin répondait « On ne connaît une œuvre qu'à partir du moment où l'on s'est trompé à tous les endroits où une erreur de compréhension est possible. » C'est dire que vous m'avez mis du pain sur la planche. Et Paul Valéry disait de son côté « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. » Eh bien, je crois que grâce à vous, je ne le serai pas. Donc, un grand merci pour tout ce que vous m'avez donné au cours de ces années, pour tout ce que vous me donnez aujourd'hui, et pour tout ce que vous me donnerez probablement demain à votre insu. Alors, peut-être avez-vous trouvé mon propos très irénique. Michel, tout à l'heure, évoquait les aspects noirs de notre existence. Et c'est vrai que le sociologue que je reste n'oublie pas que notre vie personnelle et sociale est traversée de points noirs, est traversée de conflits. Mais je crois que la meilleure façon de surmonter cela, eh bien, c'est d'y injecter de l'humour. Alors, au milieu des terres sociologiques toulousaines, n'oubliez jamais de cultiver un coin d'humour, parce que vous savez tous, depuis que vous avez lu Durkheim, que sans humour, notre cerveau n'est qu'une matière toute grise.